Bonjour tout le monde. Ça va bien? Je m'appelle Yannick, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, puis ça serait la première fois qu'ils me voyaient en avant. Alors, bienvenue à l'Église de l'Espoir. Ce matin, on commence une nouvelle série. On se prépare pour le temps des fêtes. On a commencé les carols. Puis, je sais qu'il y a quelques personnes parmi vous qui ont des joyeux lurons. Vous connaissez les sept nains de Disney? Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns ici, vous êtes les Grumpy du temps des fêtes. Vous connaissez Grumpy? Le schtroumpf grognon? Le temps des fêtes, c'est « je suis plus capable », les lumières de Noël, les tunes qui sortent trop tôt au centre d'achat, juste comme plus capable des parties de bureau, j'ai juste hâte de quitter puis retourner dans ma caverne, puis toute la consommation, puis toute la grosse affaire avec les cadeaux. On est d'accord. On est d'accord. Il y a tout un côté super commercial à ça, qui a de l'air artificiel. Mais en même temps, juste vous partager une réflexion de Tim Keller qui, personnellement, m'inspirait. Tim Keller écrit « Noël est la seule fête chrétienne qui est aussi une fête majeure pour les non-chrétiens et possiblement la plus importante de l'année. » Je pense que c'est vrai. Pensez-y. Je sais qu'il y a tout un volet commercial à la fête de Noël. On est conscient de ça. Mais dans l'année, pour les non-chrétiens, est-ce qu'il y a un moment plus fort que la période des fêtes? Honnêtement, je pense pas. Je pense pas. Et voici comment le regard que Tim Keller jette sur la manière que des non-chrétiens vont fêter cette fête-là, leur vision séculière de cette fête-là. La fête séculière de Noël est un festival de lumière, un temps pour des réunions familiales, 100% vrai, une saison pour donner généreusement à nos proches et à ceux qui sont dans le besoin. Au Québec, à Montréal, c'est très fort, la guignolée. C'est un moment où on veut essayer d'être plus sensible puis aider d'autres personnes. Puis ces pratiques-là sont positives. C'est des bonnes valeurs. C'est des valeurs qui concordent bien aussi avec les valeurs chrétiennes. Donc, c'est pas étranger à nous non plus. Alors, on a tout à gagner comme chrétien. On a tout à gagner comme chrétien à prendre le temps d'ancrer nos pieds comme il faut dans le fondement de Noël, comprendre d'où vient cette fête-là, savoir l'expliquer aux gens autour de nous pour pouvoir leur communiquer l'importance de Noël. Qu'est-ce qu'on va fêter le 25? On va fêter la naissance de Jésus. Puis cette année, le 25 tombe un dimanche en plus de ça. Fait que plusieurs, vous allez être partis dans les familles. Je sais, vous allez être à l'extérieur, mais ceux qui vont être ici, on va avoir le privilège un dimanche matin de célébrer, d'adorer Jésus-Christ notre Sauveur. Personnellement, je suis vraiment excité de ça. Je suis content de pouvoir le faire ensemble, le vivre ensemble, puis traîner peut-être la famille qui a réveillonné chez nous la veille, puis qui a dormi sur le sofa, puis juste les draguer jusqu'ici, puis ils vont venir fêter avec nous Jésus-Christ, puis ça va être un bon moment. Puis c'est important pour nous de comprendre le fondement de Noël, pour pouvoir avoir des réponses aussi pour les gens. Cette année, on a décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent. On va passer les quatre prochains dimanches, c'est-à-dire les trois prochains et celui-ci, dans 18 versets de l'Évangile de Jean. Puis l'Évangile de Jean ne raconte pas la naissance de Jésus. Ça ne commence pas là-dessus. Pourquoi on s'en va là? Mais parce qu'à quelque part, Jean a décidé de remonter, de nous présenter Jésus-Christ en remontant bien avant l'apparition de Jésus, bien avant que le Christ s'incarne, bien avant même jusqu'à la nuit des temps. Et vous savez, les gens dans nos familles, nos proches, nos contemporains, au moins en Occident, ont tendance, je crois, à rejeter souvent le christianisme pour des raisons plus philosophiques qu'on pense. Nous, on a l'impression que c'est simplement parce que, bon, ils connaissent pas tout ça, puis ils trouvent les valeurs peut-être difficiles à adopter. Il y a toute une autre dimension à ça. Pour eux, ils regardent l'univers, ils regardent comment fonctionne l'univers, puis dire qu'il y a un créateur qui est derrière ça, dire qu'il y a un sauveur de l'humanité qui s'est incarné, il est né comme un petit enfant, puis il est venu pour sauver tous les hommes il y a 2000 ans. Philosophiquement, ça ne tient pas la route pour eux. Ça ne fait pas de sens. Et je crois que c'est important qu'on se penche sur les Écritures pour voir à quel point, au contraire, la fête de Noël nous aide à comprendre énormément de choses sur l'univers même et donne énormément de sens à notre expérience humaine sur la Terre. Alors, les gens autour de nous, notre famille, nos proches, vos enfants qui sont élevés, bien sûr, par vous comme chrétiens, mais dans une culture post-chrétienne, ont besoin que vous apportiez ces réponses-là qui se trouvent dans les Saintes Écritures. Alors, qu'est-ce que vous pouvez vous attendre à recevoir de cette série? Une plus grande appréciation pour Jésus-Christ, le désir de l'élever, de l'adorer vraiment dans vos cœurs, dans vos prières, Christ dans toute sa beauté. Deuxièmement, pour Noël, juste pour la fête de Noël, remettre toute la joie qu'il doit y avoir autour de cette fête-là, la naissance du Sauveur. Et je pense vraiment que cette série-là va nous préparer à fêter comme on doit le faire, comme chrétien, cette fête-là, vraiment avec joie. Puis pour vous aider, tout simplement, troisièmement, à discuter avec vos amis. Une approche qui est plus adaptée à une société qui ne comprend pas le christianisme et qui juge de plus en plus que le christianisme n'est pas pertinent, alors que profondément, dans l'expérience de chaque être humain, il n'y a rien de plus pertinent que les réponses qu'on va voir ensemble dans ces 18 premiers versets-là. On va aller ensemble dans la prière. Père éternel, à Noël, tu nous as fait le don de ton Fils. Et lorsqu'on connaît les Écritures, lorsqu'on voit toute l'affection, Père, que tu as pour ton Fils, on comprend, Seigneur, que tu as donné ce qui était de plus cher à ton cœur. Tu t'es donné toi-même à travers ton Fils, Seigneur. Père, je veux te demander, par ton Esprit Saint, à travers cette série-là, de venir élever la personne de Jésus-Christ. Viens nous révéler la grandeur de Christ, Seigneur, que sans aucune gêne, nous embrassions vraiment tout ce que tes Écritures déclarent sur Christ. Seigneur Jésus, Seigneur, ma prière, tu le sais, c'est ça qui était ma prière lorsque j'étudiais le passage, c'est que ta gloire puisse être manifeste devant nos yeux, Seigneur. Que ta beauté vienne remplir toute notre intelligence, Seigneur. Tu es notre réponse, Seigneur. Tu es le sens de cet univers. Et je te prie, Seigneur, de venir exalter ton nom, de venir nous révéler la beauté de ta personne, afin, Seigneur, qu'on t'aime et qu'on saisisse combien tu es grand. Seigneur, je te prie à travers les prochaines semaines, d'étendre ta main et de venir parler au cœur de toute personne qui viendrait écouter cette série et qui ne serait pas prêt encore, le 25 décembre, à adorer Jésus-Christ. Viens, Seigneur, faire une œuvre puissante par ton esprit pour lui montrer ta gloire et que le 25 décembre, tout le monde qui est ici ce matin soit en train d'adorer Dieu fait homme. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen. On va écouter la lecture de Jean 1, 1 à 18 par Jérémie.
Le passage biblique de ce matin est tiré de l'Évangile de Jean, comme a dit Yannick, au chapitre 1, versets 1 à 18, dans l'édition Second. Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître.
Merci, Jérémie. Une autre citation de Tim Keller. Il vient de publier un livre sur Noël, je m'excuse. Excellent. Comprendre le sens de Noël nous permet de comprendre l'essentiel du christianisme. Un petit peu d'histoire sur la publication des quatre évangiles. Très, très tôt dans l'histoire de l'Église, d'accord, les livres de la Bible ont été écrits par différents auteurs, puis les chrétiens comprennent les Écritures qu'elles ont été inspirées par Dieu. Et donc, on a quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Très, très tôt dans l'histoire de l'Église, ces quatre livres-là se sont mis à circuler ensemble. Peut-être que vous avez déjà vu des manuscrits, les manuscrits de la Mer Morte ou différents manuscrits anciens. Souvent, ils étaient présentés comme c'était des rouleaux. Mais pas les quatre évangiles. Très, très tôt, les quatre évangiles ont été rassemblés dans ce qu'on appelle un codex. OK? Ce qui ressemblerait à un livre aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ont 30 ans et moins, un livre, c'est un petit peu comme si on prenait un rouleau de papier de toilette, d'accord? Puis tu prends un rouleau de papier de toilette, mais au lieu de le garder en rouleau, tu détaches chacun des petits carrés, c'est bon? Puis tu prends les petits carrés puis tu les mets un par-dessus l'autre. Donc, ils sont plus enfilés. Ils sont un par-dessus l'autre, mais on va peut-être les coudre ou les coller au bout, puis on a un livre, c'est bon? Fait que ça, c'était un codex. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous raconte ça, à part de me payer votre tête? Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est parce que très, très tôt, les quatre évangiles circulaient ensemble. Et puis, pour les premiers chrétiens, on ne parlait pas des quatre évangiles, on parlait de l'évangile. Et puis, l'apôtre Jean, qui, selon la tradition, selon toute probabilité, est celui des apôtres qui est décédé le plus vieux, qui a vécu le plus longtemps, selon toute probabilité, il a pu prendre connaissance des trois autres évangiles. D'accord? Et ça nous aide à comprendre pourquoi il semble par moment arriver du champ gauche, carrément, puis avec une autre perspective. Lorsque Jean a lu les trois autres évangiles, il a dit « Voici ce que je vais ajouter, ce que je vais apporter, et qui va nous aider à comprendre qui est la personne de Christ. » Puis en fait, à la fin complètement de son évangile, on n'ira pas vraiment là pendant la série, mais je vais vous le donner au début. Il nous donne explicitement le but de son livre. On lit dans Jean 20, verset 31, « Mais ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et donc, ce que Jean, la réponse, la question à laquelle Jean veut répondre, c'est « Qui est le Christ? C'est Jésus. » Ou encore, « Qu'est-ce que le Christ? » Et ça peut nous aider à comprendre pourquoi est-ce qu'il va commencer si tôt dans son histoire, mais je reviens dans un instant. Ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est que Noël nous rappelle que l'humanité a un sauveur, c'est vrai. Puis les trois autres évangiles nous rappellent ça. Mais que l'univers a aussi un créateur, et ce créateur-là, c'est le même que notre sauveur, c'est Jésus-Christ, et que tous les chrétiens ont connu sa gloire. Ce matin, on va voir ensemble que Noël nous rappelle que l'humanité a un sauveur, que l'univers a un créateur. C'est une seule et même personne, c'est Jésus-Christ. Et nous avons connu sa gloire. Commençons par le sens de Noël et le sens du monde. Dans un certain sens, Noël remonte à la nuit des temps. Écoutez bien ceci. L'apôtre Jean, d'une manière différente des trois autres évangiles, veut nous faire connaître l'origine de Jésus. Bien avant qu'il ne commence son ministère public, bien avant que Jean-Baptiste ne le baptise, bien avant qu'il ne naisse dans une crèche ou soit conçu d'une manière surnaturelle par l'Esprit de Dieu, bien avant qu'il ne soit Jésus, bien avant cela, dès la nuit des temps, avant que le temps soit temps, avant que la terre soit terre, avant que l'univers n'existe, bien avant que Jésus ne soit Jésus, il existait et était le Fils de Dieu, qui était auprès de Dieu, celui que Jean appelle la parole, le logos en grec. Tournez avec moi dans Jean 1 si vous n'y êtes pas déjà. Ouvrez vos Bibles pour vous familiariser avec ce passage-là. On va passer 4 semaines sur 18 versets. Faites-vous un cadeau pour Noël, mémorisez-les. Ils vont être précieux pour votre âme, pour celui de votre famille, pour ceux de celle de votre famille et pour vos proches autour de vous, parce que Dieu va se servir en Occident de plus en plus de ce passage-là pour annoncer l'Évangile à un monde qui pense que le christianisme est fondé sur un mythe qui ne fait pas de sens et qui n'est pas pertinent à notre époque. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce passage-là, très, très tôt, Jean va nous expliquer qui est cette parole. Alors, on lit au verset 1, « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Et puis, on lit au verset 14, c'est qui cette parole-là? De quoi s'agit-il? Au verset 14, donc Jean 1, 14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. » Donc, elle est devenue humaine. « Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Il parle presque plus en métaphore ici. « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » En ce sens-là, Noël remonte à la nuit des temps parce que le Christ, bien avant d'être Jésus, était déjà avec Dieu. Il était Dieu. Il était là au moment de la création. Jésus, comme être vivant, ne commence pas son existence en l'an zéro de notre ère. Son humanité commence là. Mais son existence est éternelle, précède de loin cela. Et une des choses qui est frappante dans l'Évangile de Jean, c'est le livre de la Bible qui l'expose le plus clairement, mais qui en même temps tire ses racines dans l'Ancien Testament, puis il y a des échos à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, mais c'est le livre de la Bible qui expose le plus clairement la divinité de Jésus-Christ. Il faut saisir pour les chrétiens, lorsque nous célébrons Noël, nous allons adorer notre Dieu, littéralement. Et ça, pour bien des gens, c'est un blasphème, c'est une ineptie, c'est pas possible, c'est inconcevable. Mais les chrétiens à Noël adorent leur Dieu devenu homme. Jean nous dit dans Jean 1, 1 et 2, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. » Et la parole était Dieu. La parole était là au début. Elle était avec Dieu et elle était Dieu. Puis on a juste dans ce verset-là l'idée de ce mystère qui apparaît de la Trinité tranquillement, où on voit la parole qui est existante. Au verset 14, on apprend que ça va être Christ incarné dans le fond. Et cette parole-là est avec Dieu et elle est Dieu. Donc elle est à la fois autre puis en même temps Dieu. Une seule personne, mais trois personnes aussi, deux ici. D'accord? Mais on voit apparaître cette doctrine-là de la Trinité qui est précieuse. Et parfois, vous allez rencontrer des sectes qui sont sorties du christianisme qui vont vous dire, non, 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 Christ n'est pas Dieu. C'est un grand prophète. Vous allez trouver toutes sortes de religions, même énormes dans le monde, qui sont en fait des sectes qui sont sorties du christianisme puis qui attaquent la divinité de Jésus-Christ. Ils voient dans ça un blasphème. C'est le plus grand des prophètes, mais c'est certainement pas Dieu. Et pourtant, Jean est absolument clair. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Puis Jésus le déclare lui-même plus loin dans l'Évangile de Jean, Jean 8, 58, alors qu'il est en train de révéler, dévoiler tranquillement sa personne, puis qui est en train de discuter avec des docteurs de la loi qui veulent le coincer, qui veulent lui tendre des pièges. Jésus va leur dire, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'y a pas d'erreur de français, ce n'est pas une mauvaise traduction. Le grec a encore plus de subtilité que le français, d'accord? Avant qu'Abraham fût, je suis. De manière permanente, hors du temps, j'existe. Et l'auditoire qui était présent a très bien compris. Et ils ont interprété ça comme un blasphème de la part de Christ parce qu'ils ont dit, c'est pas vrai que tu existais avant Abraham, tu viens de naître. T'as quoi, 30, 32, 33 ans? C'est pas vrai ça. Il dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Et il fait un écho au grand « je suis » que Yahvé se sert à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. « Je suis celui qui est ». On est dans Exode ensemble, on va y retourner après en débutant l'année. Il y a plusieurs références au livre d'Exode dans ce livre, dans ce passage-là, puis on va en souligner d'autres un petit peu plus loin. Thomas, à la fin complètement, après la résurrection de Christ, lorsqu'il voit le Christ ressuscité, tire la seule conclusion logique à ses yeux à ce moment-là, s'incline devant lui et il s'exclame « Mon Seigneur et mon Dieu » en parlant à Jésus. Il n'était pas en train de blasphémer, il avait saisi enfin qui était Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un homme, mais qui était et qui existait bien avant d'être un homme, qui était avec Dieu et qui était Dieu, parce que Jésus-Christ est Dieu le Fils. Dieu incarné fait homme. Maintenant, il y a une autre des choses importantes qui est attirée de ce passage-là, puis qui est peut-être plus pertinente encore pour aller parler avec les gens à notre époque. La nuit des temps, l'origine de l'univers est pleine de sens. Vous allez voir où est-ce qu'on va chercher ça dans le passage. Jean fait quelque chose d'absolument brillant, OK? Puis peut-être que vous avez déjà entendu ça, vous allez juste pouvoir l'approfondir un petit peu ce matin. Jean fait quelque chose de brillant lorsqu'il présente Jésus au début avec le logos. Le terme grec qu'on a pour la parole, c'est le logos, c'est ça qui est là, d'accord? Maintenant, le logos, Jean, il sort pas ça de n'importe où. C'était un terme qui était connu, qui était commun à l'époque dans le domaine de la philosophie. Donc, les philosophes grecs parlaient du logos. Il y avait différentes écoles de philosophie. Une de ces philosophies-là, c'était les stoïciens, par exemple. Alors, pour les stoïciens, le logos, c'est pas une personne, mais c'est le principe rationnel, l'idée intelligente qui organise tout l'univers. Ces philosophes grecs-là regardaient l'univers puis ils disaient cet univers-là a un sens. Il y a une idée, il y a un concept, en anglais, il y a un rationale derrière ça. C'est le logos. Et il le définissait comme ça. Un peu plus tard, un philosophe juif du 1er siècle, influencé par Platon, qui s'appelait Philo, a repris ce concept-là. Et puis, pour lui, le logos, c'est l'homme idéal ou c'est le monde idéal. Il regardait la terre puis il disait, les choses ne vont pas bien, la vie est difficile, les gens naissent, ils meurent. C'est pas comme ça que ça devrait se passer. Il y a un monde qu'on peut concevoir qui est idéal, qui est parfait. Il y a un être humain qui est pas corrompu à quelque part, un idéal d'être humain. Mais en même temps, pour Philo, c'était pas une vraie personne. C'était plus un idéal, une utopie de ce que devrait être l'être humain. Pour lui, c'était ça le logos. En général, lorsqu'on parlait du logos, on pensait aussi à toute notre rationalité intérieure, le discours intérieur qui fait que on va savoir pourquoi on fait des choses, pourquoi on prend une décision, notre conscience, toute cette dimension-là, de manière commune, c'était appelé le logos aussi. C'était en quelque sorte la raison. De manière littérale, le logos, c'est la parole qui est exprimée, parce que lorsque j'exprime une parole, puis j'y réfléchis deux secondes avant, j'exprime une pensée, d'accord? Et donc, je suis en train d'exprimer comme toute mon intériorité d'une manière communicable. C'est la parole. Puis Jean arrive, puis là, il dit, nous, on a rencontré le Messie. On a rencontré un être extraordinaire. On a découvert qui il était. On a vu les miracles qu'il a fait. On a entendu les enseignements qu'il a apportés. On a lu les prophètes. On a compris d'où il vient, qui il est. Et cherchant quel référent culturel il pouvait prendre pour que ça fasse du sens, qu'il puisse les aider à juste comme faire éclater, juste tasser leurs œillants, puis voir à quel point Jésus n'est pas juste comme génial, c'est pas comme juste le surhomme, c'est pas comme le meilleur enseignant, c'est plus que ça. Jésus, c'est le logos. Et c'est pas simplement un concept, c'est une personne. Et donc, les chrétiens ont essayé d'aller chercher un terme inspiré, conduit par Dieu, pour pouvoir mettre en parole ce qu'ils avaient expérimenté de la personne de Jésus-Christ. Puis on lit au verset 14, « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Devant la majesté de Jésus, ils ont cherché comment résumer, présenter qui est Jésus. Maintenant, ça, c'est important. C'est important parce que ça donne un sens. Pour les philosophes grecs qui concevaient le logos, ils regardaient l'univers et ils disaient « l'univers est structuré, l'univers est organisé, d'accord? » Comme la majorité de nos contemporains occidentaux, les gens avec qui vous parlez, grâce à la science, disent « waouh, il y a comme, tu sais, c'est organisé cette affaire-là, c'est pas purement accidentel. Peut-être que l'origine est accidentelle, mais bon, il y a de la structure dans cette affaire-là, il y a de l'ordre dans ça. » Mais puisqu'ils appréhendent le monde uniquement en se disant « est vrai seulement ce que la science peut m'expliquer », ils n'arrivent pas à trouver un sens, une origine à ça. Ils n'arrivent pas à dire « il y a une personne qui est à l'origine de ça ». Et donc, cet univers-là qui est hyper organisé n'a pas vraiment de sens. Fait pas vraiment de sens. Il y a un ordre, mais au-delà des lois naturelles, est-ce qu'il y a plus que ça? On va faire un petit peu de philo avec vous ce matin. Albert Camus. Il y en a qui ont déjà lu du Camus? Oui? Non? Peut-être pas la meilleure lecture pour Noël. C'est tough sur le moral un petit peu, Camus. Mais après la série, si ça vous tente de comprendre un peu comment vos contemporains pensent, c'est une belle place où on va commencer, puis ça va vous rentrer dedans assez solide. Camus, voici ce qu'il pensait. C'est un philosophe, penseur, romancier français, excellent romancier, soit dit en passant. C'est juste que ton univers est viré bout pour bout quand tu finis avec lui. Alors, Camus, il regardait l'univers, puis il disait « l'univers est organisé, tout fait un sens dans l'univers parce que tout est bien réglé. Puis tout fait un sens dans ma tête parce que je veux donner un sens à ma vie. Mais ne croyez pas en Dieu. » Donc, quand il allait vers l'origine de cet univers-là, il n'y avait pas de sens à trouver. Il n'y avait pas d'explication. Tout est ordonné. Le cœur humain veut donner un sens à sa vie. Je veux pas naître puis mourir. Puis comme il y a un non-sens dans ça, on construit rien, on abandonne tout. On essaie d'atteindre quelque chose comme personne. Pas juste les biens matériels, juste dans notre connaissance, notre amour, notre intelligence, notre expérience. On essaie de bâtir quelque chose puis pouf, on meurt puis tout s'arrête là. Pour Camus, il n'y avait pas de sens réel. Tout ce qui restait à l'être humain, c'était de s'inventer un sens. Et donc, pour Camus, finalement, la seule philosophie qui tenait, c'est que la vie est absurde. La vie ne fait pas de sens. C'est la philosophie de l'absurde. Il n'y a pas de sens à trouver. Et la majorité de nos contemporains occidentaux, ceux qui ne croient pas en Dieu, la majorité d'entre eux, d'une manière ou d'une autre, ont adopté cette perspective-là de la vie. Ils vont dire quelque chose comme « faut que tu t'inventes un sens, faut que tu trouves un sens, trouve ton sens toi-même à ta vie. » Souvent, le seul sens qu'ils vont trouver, ça va être celui du plaisir, de jouir de la vie. Et une fois qu'il n'y a plus de jouissance de la vie, bien, on considère quoi? Le suicide assisté, par exemple. Parce que la vie n'a pas de sens. J'écoutais une toune de Louis-Jean Cormier, Transistor. On court vers le vide. C'est quoi qui se passe après? On s'en va où? C'est quoi qu'on poursuit? C'est quoi qui va suivre après? Parce qu'on ne sait pas d'où on vient. Mais l'univers est organisé, puis Jean nous dit que l'univers a un sens parce qu'il a été créé par une personne qui avait une intention, qui savait ce qu'il allait faire. Christ est venu, il a créé l'univers. Et il y avait un sens derrière ça. Il organisait les choses avec une course, une histoire qu'il allait raconter. Et ça change énormément de choses. Christ est venu, s'est incarné, puis il est venu nous raconter cette histoire-là. On lit dans Jean 3, versets 11 à 13, c'est Jésus qui parle, il dit « en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Alors peut-être que vous dites que c'est de la philo qu'on fait ce matin, puis c'est pas pour moi ces affaires-là, le sens de l'univers. Premièrement, on ne fait pas de la philo, je suis dans Jean 1, c'est la parole de Dieu. Puis Jean a trouvé que c'est important pour ses contemporains de comprendre ces concepts-là, ces vérités bibliques-là, que ses contemporains avaient besoin de les entendre. Moi, je vous dis ce matin que vos enfants ont besoin de les entendre. Moi, je vous dis que vos amis ont besoin de comprendre ça. Je vous dis que vous avez besoin d'être de plus en plus familier avec ces réflexions-là qui sont là dans les Écritures. Nous ne vivons pas dans un univers qui n'a pas de sens. On vit dans un univers qui a énormément de sens parce que celui qui est à l'origine de cet univers-là, le Logos, la parole, c'est une personne. Et dans sa création, il a articulé une histoire, une pensée. Il s'est incarné pour venir nous raconter cette histoire-là, l'histoire de notre origine et l'histoire de la fin de notre course aussi, l'entrée dans l'éternité. Qu'est-ce que je peux en tirer pratiquement lorsque je regarde cet univers qui semble absolument infini à nos yeux et que je pense à son origine? Je sais que tout cela a été créé par Dieu. Tout cet univers-là a donc un sens. Dieu savait ce qu'il faisait, il savait où il s'en allait, il y avait une intention rationnelle, une intelligence qui était derrière la création de l'univers. Parce que c'est la personne la plus intelligente au monde qui a conçu l'univers. C'est Christ, le Logos. Quand je vis des moments difficiles, des épreuves, puis que la vie devient plate, la vie devient dolle, puis au milieu de l'épreuve, le cri dans mon cœur, c'est « ça fait plus de sens ». Je ne sais pas pourquoi je continue. Ça fait plus de sens. Si je ne suis pas chrétien, c'est bien possible que la seule conclusion logique à laquelle je puisse arriver, ce soit ça. Ça fait plus de sens. Mais comme chrétien, j'ai une autre option. Je peux me tourner vers les Écritures et dire, attends un petit peu, Christ qui est venu sauveur du monde était là à l'origine des temps, à l'origine de l'univers. Tout ce qui se passe dans cet univers-là qui est le sien, qu'il a créé, ordonné, articulé de manière parfaite, tout fait un sens, même la souffrance fait un sens. Même les moments difficiles font un sens. Il faut que je me tourne vers les Écritures dans la prière pour dire, Seigneur, je vois plus clair, ça fait plus de sens, mais je sais que c'est là, je sais que ta révélation est là pour m'aider à comprendre ça. Lorsque je réalise que Jésus-Christ, à son origine, est éternel, lorsque je réalise sa divinité, qu'il est Dieu, je ne lis plus les paroles des Évangiles de la même manière. Je consulte pas la Bible comme un conseiller. Une fois que je réalise que Christ est la parole qui a créé toute chose, Dieu fait homme à l'origine de l'univers, quand je lis les Écritures, puis des fois je suis choqué par des propositions que Jésus fait, des déclarations qu'il fait, je prends un pas de recul puis je dis, OK, attends un peu, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Il a ordonné l'univers, il doit savoir ce qu'il dit quand il ouvre la bouche. Quand il a ouvert la bouche la première fois, ça a créé l'univers. Il doit savoir ce qu'il dit ici. Je m'arrête, puis je regarde dans mon cœur, là où mon cœur est en train de réagir à la parole de Dieu, à Dieu, la parole. Et je vais examiner mon cœur, tout simplement. Quand je lis les Évangiles, je découvre le sens de l'univers, la sagesse de Jésus, c'est la sagesse de celui qui a créé l'univers. Je réalise que j'ai beaucoup de matériel, mais on va être là 4 semaines. Fait que je ne fais jamais ça, mais je vais m'arrêter à mon deuxième point ce matin. Une des choses merveilleuses qu'on découvre sur Jésus, avec cette idée qu'il est la parole, c'est qu'il est le Créateur. Non seulement il est le Sauveur, il est le Créateur, puis il y a une allusion évidente et directe, d'accord, à Genèse 1:1 dans ce passage-là. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis Jean commence en disant, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu a créé l'univers par sa parole et Christ était là, c'était lui qui créait. Jésus-Christ est notre créateur. Vous allez me dire, c'était pas Jésus, il n'était pas encore incarné. C'est correct. C'est notre créateur. C'est lui qui nous a créés. Et c'est ça que Christ fait. Il était là au départ, il a créé l'univers. Puis lorsqu'il revient une deuxième fois, qu'est-ce qu'il s'en vient faire? Il s'en vient faire une nouvelle création. C'est bien important de saisir ça parce que ça va avoir une incidence sur l'expérience de ma vie chrétienne, sur ma manière de lire les Évangiles. C'est l'apôtre Paul qui nous aide à réaliser ça dans 1 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 5, 17, l'apôtre Paul dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors, qu'est-ce que Jean me dit? Jean me dit au début, Christ est là, c'est la parole qui est avec Dieu, c'est la parole qui est Dieu, crée l'univers. Dieu ouvre la bouche, lorsqu'il parle par sa parole, c'est Christ qui est en train de créer, littéralement l'univers. La chute vient, l'homme pêche, quelque chose de profondément déréglé. lorsque Christ vient et s'incarne en devenant homme, qu'est-ce qu'il s'en vient faire? Il s'en vient faire une nouvelle création. Il s'en vient faire une nouvelle création. Et ça, ça commence par des cœurs nouveaux qui nous sont donnés. Un petit peu plus loin dans l'Évangile, il va rencontrer Nicodème, il va dire, il faut que vous naissiez de nouveau. Il y a un nouveau cœur qui doit être donné pour que tu deviennes cette nouvelle création. Et avec cette nouvelle naissance-là, la nouvelle création commence. Et elle se poursuit jusqu'à ce que Christ revienne ou des nouveaux cieux, une nouvelle terre va être donnée. Mais c'est le même, d'accord, qui est entré dans ta vie un jour puis qui t'a aidé à saisir l'Évangile. C'est le même qui a créé l'univers dans la nuit des temps. Avant que le temps n'existe, c'est la même personne qui a créé l'univers, qui a ordonné les cieux et la terre. Quand tu vas sortir d'ici et tu vas regarder un arbre, quand tu vas prendre un enfant dans tes bras prochainement, quand tu vas juste regarder des gens jaser et tu vas être émerveillé par l'intelligence humaine, les capacités de l'être humain, la biologie, l'infiniment grand, l'infiniment petit, tu vas regarder tout ça, tu vas dire ça, c'est majestueux. C'est Christ qui a fait ça. Il a été intelligent dans tout cela. Et lorsqu'il vient et s'incarne, devient Jésus. Il vient pour faire une nouvelle création et il déploie toute sa puissance, sa beauté, sa majesté pour nous obtenir la grâce à la croix. Et il déploie autant d'intelligence. Les scientifiques dans la salle, quand vous étudiez des choses avec des microscopes, puis vous êtes fascinés par des équations mathématiques ou physiques qui régissent l'univers. C'est cette même intelligence-là qui a été déployée pour ton salut, pour produire la grâce dans ton cœur où un jour tu t'arrêtes, puis tu dis, ma vie a un sens. Ma vie a un sens parce qu'il y a un Dieu créateur. Ma vie a un sens parce qu'il y a un Dieu créateur sauveur qui est venu mourir sur la croix, qui s'est fait chair, qui est venu mourir sur la croix pour le pardon de mes péchés. Il est ressuscité d'entre les morts. Est-ce qu'il pouvait ressusciter d'entre les morts? C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Vous trouvez l'univers extraordinairement organisé. Celui qui a fait ça, est-ce qu'il ne peut pas ressusciter d'entre les morts? Come on! L'autre option, c'est qu'il n'y a pas de sens. L'univers est ordonné, mais ça ne fait pas de sens. Tu veux donner un sens à ta vie, mais dans le fond, ta vie a juste le sens que tu lui prêtes jusqu'à temps que tu sois tellement découragé que tu ne sois plus capable de lui prêter un sens, puis ta vie s'arrête là. Non, l'univers est ordonné de manière intelligente parce qu'elle a été créée, il a été créé par une personne, le Christ, qui s'est fait chair, qui est venu marcher parmi les hommes. Et les apôtres ont vu sa gloire. C'était une énigme pour eux de marcher avec Jésus, puis d'avancer avec lui, d'entendre ses paroles, de voir faire des miracles. Ils étaient fascinés, mais en même temps, incapables de le faire rentrer dans une boîte. Les prophéties n'étaient pas suffisantes pour tout le contenir. Et c'est vraiment après sa résurrection, alors qu'ils ont reçu à la Pentecôte l'Esprit-Saint qui les a aidés à revoir toute la majesté de ce que Christ a fait, qu'ils ont pu saisir entièrement la grandeur de Christ, que Thomas s'est agenouillé devant lui puis il s'est exclamé « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et ces hommes-là ont été bouleversés par la gloire qu'ils ont contemplée dans la personne de Christ. Ils sont partis avec ce message-là et ils ont révolutionné l'Empire romain. Et cette tradition-là, cette révélation-là, est venue bouleverser le monde entier. L'Occident, mais beaucoup plus que l'Occident. Aujourd'hui, l'Évangile avance à grands pas beaucoup plus vite à l'extérieur de l'Occident. C'est par millions que les chrétiens se comptent en Chine, que ce soit légal ou non. Dans une décennie, il devrait représenter 10 % de la population chinoise si le rythme continue à cette vitesse-là. Lorsqu'on va fêter à Noël, on va fêter le vrai sens de Noël. Et le vrai sens de Noël remonte jusqu'à la nuit des temps. Lorsqu'on va adorer Jésus-Christ, on va adorer notre Sauveur, mais on va adorer notre Créateur qui s'est fait chair, est venu marcher parmi nous. Père éternel, on vient dans ta présence pour t'adorer, te remercier d'avoir donné ton Fils. Seigneur, cette semaine, j'étudiais ce passage, puis j'étais émerveillé par la splendeur, la beauté de Jésus-Christ. Dépassé par le fait que celui qui a créé l'univers a jugé bon un jour de m'appeler son ami, parce que j'ai décidé d'être son disciple. A décidé de m'appeler son frère, parce qu'il avait rendu possible mon salut en mourant sur la croix. Parce que mon Dieu, Dieu le Fils, a décidé de s'incarner, de devenir homme, de marcher parmi les hommes. Et Seigneur, les apôtres, les premiers disciples, ont vu ta gloire. Ont vu ta gloire, pleine de grâce, de vérité, Seigneur. Ma prière, c'est que, au cours des prochaines semaines et ce matin, pendant notre louange et en préparation pour Noël, tu viennes élever ta gloire, Seigneur Jésus. Que tu viennes manifester ta gloire, Seigneur Jésus. Viens t'élever dans toute ta splendeur à nos yeux, Seigneur. Et que nos cœurs répondent en louange. Et qu'on ait la joie, Seigneur, de voir des gens qui fréquentent cette assemblée sans te connaître vraiment, découvrir vraiment qui est Jésus-Christ, qui est le Christ. Amen.